la post-réalité. Oui, entre le vrai et le faux, oui, d'accord. Fake news et tout le bordel, ouais. Ok.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque fois, ça m'émeut de vous retrouver comme ça au cœur de l'après-midi pour qu'on se fasse ensemble un petit shot de gai savoir. Zoom zoom zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, afin de vous présenter justement notre concept, je vous invite dans mon intimité, dans mon quotidien, en vous ouvrant les portes de ma routine matinale. 5h45, mon appli Petit Bambou, dans laquelle j'ai enregistré mon cycle circadien, m'indique par une douce mélopée qu'il est temps de me lever. Cyril, lui, oui, dort encore un peu, car ayant passé la cinquantaine, son cycle circadien est tout pourri. Je me lève et me dirige alors vers le tapis de yoga pour mon premier rituel de la journée, les salutations au soleil. Ce n'est qu'après 45 minutes de yoga que je m'accorde enfin mon petit déjeuner, une infusion ayurvédique à la semence de yak, car oui, une bonne hygiène de vie n'empêche pas la gourmandise. Ensuite, je relis quelques pages des 4 hardcore Toltec pour me rappeler que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas les audiences ou le montant des droits d'auteur que je vais toucher en janvier, mais la présence au monde. Mathieu, tu es vraiment un saint, me murmure alors Cyril qui vient de se réveiller et attaque un reste de pâté croûte oublié sur la table de chevet à côté de son exemplaire dédicacé du livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes. Okay. Oui, on vit ensemble, c'est comme ça. J'essaye de lui expliquer qu'avoir un corps sain dans un esprit sain tout en respectant tous les êtres vivants, des plantes à Gilles William Godnadel, n'a rien à voir avec la sainteté. C'est que c'est juste une question d'ouvrir grand ses chakras. Mais les siens sont tellement fermés, obstrués par une épaisse couche de cholestérol qu'il ne peut pas comprendre. Alors je lui adresse un clin d'œil complice, j'enfile mes Birkenstock, j'enfourche mon vélo cargo en voie recyclée dont l'autocollant Free Tibet se décolle un peu et je quitte notre tiny house de Montreuil pour rejoindre Radio France en maudissant ces connards de droite qui roulent en Range Rover.
Foutez notre gueule Mathieu, non ?
Pas du tout, je viens de vous présenter notre thème du jour, la post-réalité. Un prolongement finalement logique, largement lié à l'explosion de l'IA, de la post-vérité, cette ère dans laquelle on vit depuis que Trump a décidé que finalement les faits, les chiffres, tout ça n'avait pas tant d'importance et que chacun était libre de façonner sa vérité à partir de ses propres envies. Alors où va ce monde dans lequel chacun au fond se forge sa propre vérité, une vérité qui l'arrange ? Je reprends une tasse de cette délicieuse tisane à la semence de yak et zoom zoom zen, c'est parti.
France Inter, zoom zoom zen, Mathieu Noël.
Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Gérald, vous êtes sociologue, professeur à la Sorbonne, spécialiste des croyances collectives et vous avez sorti dernièrement au PUF « À l'assaut du réel », un livre dans lequel vous décrivez les mécanismes de ce que vous appelez la post-réalité, une nouvelle étape après celle de la post-vérité. Vous dites qu'elle peut aujourd'hui mettre en péril le socle de notre vie commune. Vous allez nous expliquer tout ça, juste le temps de vous présenter deux journalistes qui semblent prêts pour cette ère de la post-réalité, sachant que Manon nous maintient par exemple qu'il y a 10 000 habitants à Angers. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Non, mais ça, c'est de la méconnaissance.
Voilà. Ah, combien d'habitants, combien d'habitants Angers ?
Mais on avait regardé.
Alors combien ?
300 000 ?
Oui, 160 000.
Ah, ben, bon, c'est
on passe d'un extrême à l'autre. 6 millions.
Avec Manon... l'agglomération.
Ah oui, un peu plus avec l'agglo. Mais à Angers même, c'est 160
000. Parfait.
Manon, votre rapport à la réalité est donc complexe, changeant, notamment quand vous perdez à Mario Kart. Mais en tant que journaliste, vous êtes extrêmement rigoureuse, comme on le découvrira une fois de plus dans votre pièce jointe.
Direction un autre univers, il a longtemps été décrit comme le futur de l'intelligence artificielle accessible avec des grosses lunettes qui nous y emmènent. Ah oui. Mais au final, il a plus floppé qu'autre chose.
Face à vous, Gérald, lui fait partie des victimes de la post-réalité que je pratique ici au second degré pour amuser nos auditeurs, mais dont certains, hélas, croient vraiment qu'il a connu ses premiers frissons amoureux dans les bras ou plutôt les pattes de Micheline, une vache laitière normande, ce qui, est-il besoin de le préciser, est faux. Il a été dépucelé à 27 ans par une cantinière d'Alençon, comme l'a révélé Harold Barbet mercredi. Quentin, non, il faut rétablir les faits.
L'âge est bon, mais pas la cantinière.
Quentin, chaque matin, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre concept du jour. Alors, la post-réalité, ils la ressentent ou pas ?
Disons que c'est une notion assez floue. Quand on arrive dans la rue et qu'on dit « Alors, la post-réalité, on en pense quoi ?» Si on n'a pas une bonne dizaine de minutes devant soi, ben c'est difficile de se forger un avis comme ça. Mais je vous ai ramené quelques pépites réactions sur ce thème cher à notre invité, la post-réalité, Mathieu.
Vers 16h30, séquence nostalgie en vue, car avant la post-réalité, quand le monde tournait encore rond, il y avait déjà de drôles d'histoires qui circulaient. Le Zoom Zoom Test sera consacré aujourd'hui à ce que les complotistes appellent la vérité qu'on nous cache et que les gens normaux appelaient plus prudemment les légendes urbaines. Juste avant 17h, François Rollin passera à ramasser les copies. Qu'a-t-il pensé de nos émissions de la semaine, surtout celle sur la virginité ? On risque de regarder nos chaussures pendant 3 minutes. Après 17h, on relèvera la tête avec Salomé Saké, journaliste emblème d'une génération qui se mobilise, notamment pour le climat, avec elle on zoomera sur 2010, année de la parution du manifeste Indignez-vous de Stéphane Hessel. Mais d'abord, penchons-nous donc sur cette ère de la post-réalité. Gérald Bronner, en quoi l'ère de la post-réalité est-elle encore plus inquiétante que l'air l'ère de la post-vérité.
L'ère de la post-vérité, c'était cette façon, disons, d'aller chercher des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables. Les mondes numériques ont largement favorisé cette possibilité. La post-réalité, ça me semble être l'étape supérieure, c'est-à-dire l'étape d'après, parce que la réalité, dans le fond, on la connaît quand on s'y cogne, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'elle nous fait valoir son existence quand elle oppose un non à l'expression de nos désirs. Selon voilà, si on s'organise collectivement, à la fois idéologiquement, narrativement et aussi technologiquement, pour ne plus entendre le non que le réel impose à nos désirs, que va-t-il se passer ?
Comme en fait, comme un petit enfant qui n'aurait pas de limite fixée par, qui n'aurait pas de cadre en fait.
Tout à fait. D'ailleurs, ça s'est accompagné en partie par des révolutions pédagogiques et des révolutions de la représentation de l'enfant. Par exemple, la notion d'obéissance que je ne mets pas spécialement au pinacle, c'est complètement évaporé de nos représentations collectives quant aux qualités de l'enfant. Par contre, on va mettre en avant son autonomie et même le fait qu'il ne soit plus égoïste ne pose pas tellement de problèmes. Et le pays où ça pose le moins de problèmes, c'est de l'ordre de 3 à 4%, c'est en Corée du Sud. Précisément, c'est l'endroit au monde où on fait le moins d'enfants. Donc je vous laisse réfléchir sur ce point.
Effectivement, ça fait réfléchir. Si on continue sur cette pente, si les faits ne pèsent plus rien, alors un jour prochain, Cyril Lacarrière pourrait se lancer en politique à la tête du premier parti vegan. Et prétendre qu'il est végétarien depuis l'âge de 17 ans, qu'il ne s'est pas fait dédicacer son livre par le champion du monde de pâté en croûte 2023, qu'il n'a jamais pris l'avion, ni pour aller à Las Vegas voir U2, ni fêter la closing d'Ibiza, qu'il n'a jamais roulé sur une grosse moto, qu'il ne connaît pas de William, qui serait le tenancier d'un bistrot Blériot, qu'il ne connaît pas non plus. Voilà où pourrait nous mener ce concept dont vous nous racontez l'origine, Cyril, la post-réalité, d'où ça sort.
Eh bien, imaginez un monde où la vérité et les faits n'ont plus le dernier mot, où la réalité compte moins que la manière dont elle est ressentie, où un tweet peut peser plus qu'une enquête et une image truquée, plus que le témoignage solide d'un expert. Bienvenue dans l'ère de la post-réalité. Une notion qu'on a beaucoup vue, lue et entendue au moment de la première élection de Donald Trump, et je vais y revenir, mais dont les origines remontent à bien avant ça.
Parfois même sans qu'on utilise le terme de post-réalité.
Absolument. Un exemple, en 1981, le philosophe Jean Baudrillard publie Simulacre et simulation, un essai sur les artefacts du monde contemporain, c'est écrit comme ça sur le site de Gallimard. Baudrillard y explique que le vrai et le faux s'effacent dans un même brouillard de signes. Et nous sommes 37 ans avant l'ère Trump. Et puis en 2010, le journaliste américain David Roberts va plus loin en parlant de la dérive du monde politique avec cette notion, la politique post-factuelle.
Et on en arrive, Cyril, à 2016.
L'année de Trump 1, l'année du Brexit aussi. L'année où le terme post-truth, post-vérité intègre le Oxford Dictionary, manière de marquer l'entrée dans un moment où l'émotion, la croyance et le récit personnel l'emportent sur le réel objectif. Un phénomène qui s'est depuis amplifié, où le champ des possibles s'est accentué grâce notamment à l'intelligence artificielle. Grâce à l'IA, chacun peut fabriquer sa bulle de vérité, comme les bulles filtrantes ont créé un univers de réalité différent selon les uns et selon les autres. Politiquement, le glissement est vertigineux, il l'est aussi pour nos modèles démocratiques. Alors, d'où ça sort la post-réalité? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Gérald Brunner, on entre dans l'ère de la post-réalité à cause de l'intelligence artificielle ou pas seulement?
C'est un des symptômes, disons, c'est un des paramètres, je dirais pas seulement, parce que c'est un long courant aussi historique, idéologique, qui touche, je viens de le dire, y compris la façon dont on pense l'éducation de nos enfants. Mais l'intelligence artificielle constitue probablement un carrefour essentiel parce qu'elle va produire, c'est déjà le cas depuis 2016, il y a plus de production d'informations artificielles que d'informations gérées par des agents naturels.
C'est peut-être, je ne sais pas si c'est un bon exemple, vous allez me le dire, mais moi j'ai ma belle-mère, parfois elle m'envoie des petites stories sur Instagram avec des trucs qui sont faits par IA. Elle me dit, c'est fou tous ces petits chats qui font ci et ça. Et je lui dis, mais non, c'est de l'IA, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème générationnel aussi avec une génération qui va savoir distinguer, ce qui a d'ailleurs peut-être pas, d'ailleurs que même cette génération peut se laisser avoir par des images qui sont parfaitement réalistes. Est-ce que ça, c'est le fait de visionner des choses qui paraissent réelles mais qui ne le sont pas, ça complique les choses encore.
Alors, il y a un problème générationnel. Les études montrent, en tout cas, il y a quelques années, que les personnes du troisième âge partageaient plus de fausses informations que les autres, parce que c'est une question de culture numérique. Ouais. Les choses sont, dans les derniers papiers que j'ai pu lire, sont un peu en train de s'inverser, parce que les plus jeunes sont aussi ceux qui consultent le plus les réseaux sociaux, s'informent le plus par les réseaux sociaux, et pas n'importe lesquels. C'est TikTok, Instagram, et TikTok, c'est 20% de fausses informations. Mais pour parler de l'IA, il faut bien avoir en tête que là, dans quelques semaines, quelques mois, probablement quelques semaines, va être proposé quelque chose qui existe aux États-Unis au Canada, qui est Sora 2, qui est un générateur de vidéos artificielles qui sont stupéfiantes de réalisme et qui va être en plus adossé à un réseau social, donc il va produire à l'infini des vidéos. Vous mettrez un prompt, quelques idées, par exemple votre collaborateur qui est grillé sur un barbecue, et on sait déjà les premières images qui aboutissent. C'est souvent justement des images cathartiques où on punit des personnalités publiques. Mmh. Elles sont souvent utilisées aussi
des
pour... C'est les deepfakes, en fait. Ouais. C'est les images qui sont profondément trompeuses. Et on sait que dans 96% des cas, c'est utilisé pour des détournements pornographiques. Et on sait aussi, puisque OpenAI, qui est en fait la société qui promeut Sora 2, que OpenAI a admis dans son rapport que 1,6% des requêtes pornographiques en fait passent à côté du pare-feu. Et quand il y aura des millions de requêtes, ça fait quand même beaucoup déjà, quoi.
Mais Mark Zuckerberg a aussi lancé Vibes, qui est un peu un pendant pareil.
Tout à fait, à peu près d'ailleurs, en même temps.
Et on parlait des vidéos là qu'on voit passer sur Instagram, etc. Est-ce que le problème aussi aujourd'hui, c'est que les réseaux ne mettent pas du tout en avant que il y a des vidéos générées par intelligence artificielle. Enfin, il est censé quand même être dit quelque chose sous la vidéo et que ce soit stipulé, mais c'est en tout petit.
C'est le cas pour Sora 2. Il y a une estampille. Simplement, des gens compétents ont déjà montré qu'il était possible de retirer cette estampille, alors que soi-disant non. Et il y a même pire, il y a des gens maintenant qui mettent cette estampille sur des vraies vidéos.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Vous avez aimé l'ère de la post-vérité, vous allez adorer celle de la post-réalité. Le sociologue Gérald Brunner est avec nous pour nous expliquer ce qu'il entend par là. Gérald, vous dites dans votre livre, À l'assaut du réel, paru au PUF, que l'être humain est la seule espèce animale à percevoir la cinquième dimension. C'est quoi la cinquième dimension?
Ah oui, je savais que ça vous attirerait votre attention. C'est en fait la dimension des possibles, tout simplement. C'est vrai que dès le plus jeune âge, à 8 mois, ça peut sembler surprenant, mais j'en donne les références. À 8 mois, les enfants sont capables d'avoir des modèles de calcul probabilistes, en quelque sorte. Ils voient donc le monde des possibles. Et ça, c'est un formidable avantage pour notre espèce, parce que nous sommes capables d'avoir des stratégies, justement, d'essayer de plier le réel par notre désir. Parce que c'est aussi beaucoup d'angoisse. En fait, c'est à la fois, je dirais, un avantage et une malédiction de l'humanité.
Et la malédiction de l'homme, c'est surtout qu'il passe sa vie à essayer d'assouvir ses désirs. Or là, si on peut plier le réel à nos désirs, ce que nous donne, une possibilité que nous donnent peut-être les bulles informationnelles, l'IA, tout ça, ça va être catastrophique.
Bah, vous avez exactement compris le problème. C'est pas une invention de notre contemporanéité de vouloir plier le réel à notre désir. Le plus vieux texte de l'humanité qu'on connaît, c'est l'épopée de Gilgamesh, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas mourir. C'est déjà vouloir s'affranchir de sa condition biologique. Donc c'est tout à fait naturel et même souhaitable. Sans ça, peut-être que nous serions encore dans des grottes. C'est-à-dire, pour avoir taillé du silex, il faut vouloir un peu plier le réel à son désir. Mais le problème, c'est comme vous l'avez dit, quand on est dans des conditions à la fois narratives, idéologiques et technologiques qui nous permettent de donner à notre pensée désirante une puissance, je dirais, inédite dans l'histoire, bien, ça peut nous conduire à vivre tous dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. Ce qui ne permet pas d'aboutir dans aucun monde possible, justement, à une politique, disons, publique rationnelle.
Oui, parce que vous dites que cette recherche d'assouvir nos désirs oriente nos choix quotidiens, notamment nos choix dans l'information qu'on souhaite recevoir. Et ça, avec l'algorithme qui va nous pousser toujours le même genre de vidéos, par exemple, ça peut être intéressant. Ça veut dire quoi pour vous ?
Ben, ça veut dire que c'est une expression, là aussi, d'un invariant de l'espèce humaine qui est le biais de confirmation. C'est pas notre contemporanéité qui a inventé ça. Simplement, ces invariants mentaux vont s'hybrider avec des variables sociales, des paramètres contextuels, et vont donner dans certaines situations historiques, et nous y sommes, une puissance, encore une fois, inédite à certaines de nos obsessions mentales. C'est-à-dire qu'on pensait que quand il y aurait un libre marché des idées, on espérait ça dans le siècle des Lumières, quand on n'avait pas encore le droit, par exemple, de penser contre Aristote, contre Galien, contre la Bible, dans certains cas, on se disait, quand enfin on pourra dire ce que l'on veut, eh bien, le marché des idées va naturellement sélectionner les propositions les plus rationnelles.
Oui, et la vérité va émerger.
Exactement. La vérité peut se défendre toute seule, disait Thomas Jefferson, un des fondateurs de la démocratie américaine. Et la terrible mauvaise nouvelle qu'on est en train de découvrir, c'est que ça n'est pas le cas. La vérité doit se défendre. On doit la défendre et en plus, on doit maintenant essayer de défendre aussi le réel et la réalité.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on est qu'on est de moins en moins curieux aujourd'hui ?
C'est difficile votre question. Il est probable qu'avec l'usage des intelligences artificielles, c'est-à-dire l'externalisation dans le fond d'un certain nombre de fonctions mentales, l'écriture et pourquoi pas la curiosité, en effet, ce genre de choses qui caractérisent l'humanité, par exemple la curiosité qui nous fait explorer le monde des possibles, la cinquième dimension, eh bien soit abîmée. En fait, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait, de la pédagogie qu'on met autour de ces outils qui sont par ailleurs formidables. J'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Et puis de toute façon, le dentifrice est sorti du tube, on ne peut pas le faire rentrer. Voilà.
Est-ce que vous êtes, Gérald Brunner, un anti-68art ? Parce que j'ai lu, selon vous, le point de départ de cette recherche d'un monde où nos désirs seraient des réalités, c'est mai 68.
Non, alors en fait, c'est une mauvaise lecture du livre.
Mince.
Je suis pas du tout, mais justement, je rétablis la vérité ici, c'est très bien. Je suis pas du tout un anti-68ard. Moi, je pense très sincèrement, je suis né un peu plus tard, mais si j'avais eu la chance d'être jeune à ce moment-là, je pense que je
vous auriez balancé des pavés.
Peut-être pas balancé des pavés, mais j'aurais volontiers écrit qu'il faut prendre ses rêves pour des réalités, etc. Simplement, je dis que dans ce mouvement, qui est un mouvement politique, se cachait un passager clandestin qui est antérieur en fait à mai 68 et qui est cette volonté, ce que les situationnistes appelaient la subjectivité radicale, c'est-à-dire la volonté de dire « tiens, je ressens ça, donc le monde pourrait être ça. » Voilà, si j'ai envie, si j'ai l'impression d'être par exemple un animal, c'est une des communautés que j'étudie dans le livre, il y en a de très nombreuses et très étranges, les Terrianes sont des gens qui croient être des animaux parce qu'ils ressentent, par exemple certains d'entre eux ressentent qu'ils sont plus lourds que ce qu'ils sont sur la balance. Donc une façon de réduire cette anomalie de ressenti, que je ne moque pas, je ne sais pas pourquoi ils ressentent ça, mais ça peut être un problème de proprioception, eh bien, la solution, c'est par exemple que peut-être vous êtes un ours. Voilà. Et c'est vrai que ça absorbe cette anomalie, et donc la caractéristique de notre temps, c'est qu'il y a des récits de cette nature qui vous proposent d'absorber, disons, des perturbations identitaires.
Je viens de comprendre pourquoi, effectivement, j'avais pris quelques kilos. Je suis en fait un ours, ça n'a rien à voir avec cette tartiflette en fait que j'ai mangée l'autre soir.
C'est l'arrêt du sport aussi.
Et vous, mais je vous en prie, l'arrêt du sport, mais enfin, je vais au gym tous les jours.
Au gym.
L'expression « aller au gym » me date en même temps. C'est-à-dire que l'effort que je produis dans la salle vient d'être annihilé par mon expression « aller au gym ». Je suis un dinosaure, pas un ours. Et vous, estimez-vous qu'on vit avec l'avènement de la post-réalité un moment critique pour la pensée humaine, ou bien comme Cyril, pensez-vous qu'un homme qui a une si belle tour à son nom à New York a forcément raison? Quentin est allé vous poser la question dans la rue.
Un soir de cette semaine après l'émission, je sors de la maison de la radio pour aller discuter post-réalité avec les gens au hasard des rues. Je dois avouer que c'est la première fois que ça m'arrive de discuter post-réalité tout court, d'ailleurs. Alors que la nuit nous attrape de plus en plus tôt, j'arrête ce monsieur qui a l'air sympa.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom à vous?
Pierre.
Pierre, vous avez quel âge?
70 ans.
Je vous fais dire un truc, on reçoit un sociologue qui s'appelle Gérald Bronner.
Ah, je connais très bien. Ah. Évidemment. Gérald Bronner, il a écrit un livre... L'apocalypse cognitive. Magnifique.
Un fan, donc, Gérald. Je tombe sur un fan.
Je suis très honoré.
Voyons ce qu'il pense de la post-réalité.
À l'assaut du réel, c'est son nouveau livre. Ah d'accord, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Oui, entre le vrai et le faux, oui, d'accord. Fake news et tout le bordel, oui. La réalité se venge toujours. Il y a une réalité qui est plus réelle que l'autre. Toujours.
Vous avez un exemple concret?
Par exemple, je suis un beau garçon. Je vais essayer de draguer une fille. Rapidement, elle va se rendre compte que je ne suis pas un beau garçon. Donc, la réalité que je suis âgé et pas beau, et donc ça ne va pas marcher.
C'est pas faux, mais la beauté, ça reste subjectif. Je lui demande alors si on s'apprête à vivre dans une époque avec plusieurs réalités.
Oh là, ça, on en a habité beaucoup. Hein. Il y a toujours eu dans le monde, depuis que l'homme existe, la tentative de créer une réalité parallèle. Regardez les mythologies. Regardez les religions. La religion, c'est une réalité parallèle. On dit que Dieu existe, mais personne ne l'a jamais vu. Bon, ben voilà, on a toujours vécu avec des réalités multiples. Donc c'est pas nouveau.
Ma prochaine rencontre, c'est ce monsieur qui porte un jogging complètement rouge, intégral. Que fait-il dans la vie?
Je suis assistant administratif dans un centre de yoga.
Je demande à Raphaël, puisqu'on fait connaissance, son avis sur la post-réalité.
Merci beaucoup. Vous m'honorez beaucoup. Effectivement, chacun aujourd'hui a les possibilités via Internet, via les réseaux sociaux, de recevoir des tonnes d'informations, souvent contradictoires. Moi, je regarde des sites comme ft.com, cnn.com, bild.de, La Stampa, El País. Et c'est vrai que pour une même information, un même événement, celui-ci va être analysé, commenté, critiqué de façon très différente suivant les médias, même si ce sont des médias officiels.
Je lui demande la conséquence de tout ça, de ne pas s'aligner sur une même réalité.
Eh bien, finalement, est-ce que finalement chacun a sa propre perception des choses? Donc on a chacun un peu notre monde, notre univers dans lequel on vit. Ça peut même entraîner des disputes, et c'est pour ça que c'est vrai qu'un petit coup de yoga, ça peut faire du bien.
Voilà. Eh oui, alors allons-y, expliquez-nous.
Alors, première chose, respirez, tout simplement. Vous allez voir, ça fait du bien, ça vous prend quelques secondes, ça vous coûte rien et c'est super efficace. Et le soir, si jamais vous avez encore du stress, etc., vous vous allongez sur le sol, vous mettez les jambes à la verticale contre un mur, vous restez 2-3 minutes et vous allez voir, Magique.
Magique. Et on digère comme ça la post-réalité.
Madame, vous aviez du temps dans le micro-trottoir, visiblement.
Oui, hein, pour... je prends le temps avec les gens.
Ah oui.
Beaucoup de personnes.
C'est formidable.
Beaucoup de rencontres.
Ma dernière rencontre, justement, m'interpelle d'une drôle de façon, tiens.
Et arrête de faire des micro-trottoirs, c'est chiant, les micro-trottoirs.
Eh bien, enchantée. Ravi d'échanger. Ça l'énerve, les micro-trottoirs, mais elle se prête quand même au jeu.
La post-réalité. C'est pour ça, France Inter remet des vrais journalistes, paye vraiment des journalistes, incite les autres radios à refaire de la vraie radio, arrête la pub.
Bah parce que ça évitera peut-être de faire confiance à n'importe qui dit absolument n'importe quoi sur absolument n'importe quel canal de diffusion.
Voilà, c'est ça.
Et de paumer les gens par rapport à leurs repères. C'est-à-dire qu'on n'a plus de repères.
Une perte de repères pour elle et une segmentation de la société.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va être de moins en moins sur le même canal les uns et les autres. Et de plus en plus, t'as pas remarqué, quand tu parles aux gens, ils répondent à une autre phrase. Vous avez pas remarqué ça? Et non, en fait, je brode parce que post-réalité, ça ne m'évoque rien.
Et finalement, j'ai fait pareil. J'ai
bien
brodé.
Joué, bien joué,
j'ai brodé
Quentin.
Pendant 4 minutes.
Ça s'est quasiment pas vu.
Mais après tout, c'est peut-être ça, ma réalité. Un peu floue, mais bien montée. Non, je parle du montage.
Quand vous parlez de perte des repères. Quand vous parlez de perte de repères, quand après notre émission sur Patrick Sébastien mercredi,
je suis choquée.
Choquée de quoi ?
Quelle indignité, dirait le président Sarkozy.
Sur le service public.
Gérald Bonheur, je reviens à votre fan en début de micro trottoir, celui qui vous avait lu et qui avait le plus de choses à dire.
C'était le plus intelligent.
C'était le plus intelligent des trois. Et notamment, vous lire rend intelligent, j'ai l'impression. Il a dit cette phrase intéressante : on a toujours vécu avec des réalités multiples. Il a cité la religion, par exemple. C'est pas faux. Est-ce que c'est si nouveau ce qu'on vit ?
Alors non, pas du tout. Effectivement, il a raison, mais je ne le dirais pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réalités multiples. Il y a le réel, en l'occurrence, et puis il y a nos mondes imaginaires qui essayent de contester le réel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je suis sûr que le monsieur serait d'accord avec ce que je viens de dire. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez le retrouver.
Ah, je peux le retrouver.
Pour lui reposer la question. Et je dirais ça comme ça. Ceci dit, il y avait plein de choses de bon sens, y compris la dame qui prétendait ne pas du tout voir ce que c'était que la post-réalité. On a donné une assez bonne définition.
Laquelle, justement ?
Eh ben, la troisième personne.
Ouais, non, mais quelle était sa définition pour vous ?
Ben, elle a dit que chacun vivait dans un canal un peu différent, etc. Et en fait, c'est un peu ça, la post-réalité. On le voit à chaque fait divers. Regardez l'assassinat, par exemple, de Charlie Kirk aux États-Unis. Il y a eu plusieurs mondes interprétatifs, narratifs quant à la personnalité de la personne qui l'avait assassiné. C'est un peu comme le chat Schrödinger, si vous voulez, qui est mort et vivant tant qu'on n'a pas ouvert la porte. Il était d'extrême gauche et d'extrême droite, selon la position d'où on commentait cet assassinat.
Mais justement, vous parlez de faits divers. Le streamer Raphaël Graven est mort en direct sur Kick au début de l'année, après avoir subi des humiliations et des violences répétées en direct pendant des mois. Des centaines de milliers de personnes regardaient ces lives. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à un point où ce qui se passe sur les plateformes nous déshumanise complètement ?
Alors, de la même façon que vous m'avez demandé tout à l'heure si on deviendrait moins curieux, etc. Ouais. On ne va pas muter, notre espèce et notre cerveau ne va pas muter. Par contre, dans notre cerveau, il y a 1000 sociétés possibles, il y a 1000 personnalités possibles qui vont s'actualiser ou non selon le contexte. Et effectivement, le contexte numérique, celui que vous avez mentionné, il excite quelque chose qui est une forme de harcèlement, mais où on se déresponsabilise, parce que c'est vrai que pour certains d'entre nous, enfin moi je ne participe pas à ce genre de choses, mais pour ceux qui participent, ils ne font pas grand-chose. C'est-à-dire mettre un smiley, pleurer de rire, etc. Ils ne se disent pas « j'ai fait le mal ». Mais c'est la somme de toutes ces choses qui pèsent sur un individu, qui peuvent le conduire au suicide dans certains cas, ou en tout cas une situation de santé qui est telle qu'elle est. Donc, de la même façon, ce que je disais pour Sora 2, les premiers usages statistiques que l'on voit sont des actes un peu cathartiques de vengeance sur des personnalités publiques. Et dans les sociétés très polarisées dans lesquelles nous sommes, on peut supposer que ce type d'usage va se répandre et que là aussi, c'est les faces les plus obscures de nos dispositions mentales.
Oui, donc ça va être de plus en plus violent, en fait.
C'est ce qu'on peut craindre. Après, il y a toujours des réactions, vous voyez, de formidables initiatives qui se prennent un peu partout pour réagir contre ça. Mais franchement, le bras de fer est très mal engagé. Je ne veux pas être trop pessimiste quand on voit que même les détenteurs, disons, de ces grands réseaux sociaux ne sont plus du tout volontaires pour faire de la modération. Au contraire même, ils sont maintenant engagés idéologiquement. Les gens comme Musk, encore Zuckerberg, c'est une forme d'opportunisme cynique. Mais Musk, lapsus révélateur, Musk est complètement engagé idéologiquement depuis la Covid, disons.
Moi, j'aime bien l'exemple de la réalité qui nous rattrape, celle que donne votre admirateur. D'ailleurs, à un moment donné, il reste quand même quelque chose de factuel. Et ça nous rattrape.
Bah, par exemple, le réchauffement climatique. On aura beau casser tous les thermomètres, comme le fait Donald Trump pour ne pas mesurer ce réchauffement climatique. Il veut, par exemple, éteindre 2 satellites de la NASA dont le but est d'observer les perturbations climatiques. Oui. Bah, si vous cassez les thermomètres, vous n'êtes plus en dialogue avec le réel. Mm-hmm. Mais il y a un moment donné, le mur du réel va se rappeler à nous. Ouais. C'est comme pendant la Covid-19, certains ne pensaient que le virus n'existait pas. Ben voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça, le fait de différer notre dialogue, disons, rationnel avec le réel, va nous coûter extrêmement cher.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Le problème de la post-réalité dans Zoom Zoom, on connaît hélas que trop bien, puisque je vous rappelle qu'on bosse avec Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint qui vit dans une sorte de multivers personnel dans lequel la gastronomie italienne n'existe pas, où Lourdes est la ville la plus fun du monde, où un séjour d'un mois au Cap-Vert est moins sexy que la visite d'un presbytère angevin. Mais sachez que cette bulle de réalité alternative n'est pas due à l'absorption de fake news ou à la consultation frénétique de blogs complotistes, mais tout simplement à la sécrétion trop importante de la couradine, l'hormone de la mauvaise foi. Ce quiz sur les formes primitives de post-réalité qu'on appelle légendes urbaines, lui est donc dédié, ainsi qu'à notre réalisateur bas carbone, Ghislain Fontana, qui est persuadé que la Terre est plate et qu'elle a la forme d'une semelle Birkenstock. Jouons au Zoom Zoom Test. Nous sommes le 16 juin 2009, un grand jour pour le petit lycéen Quentin, lui, qui bûche ce jour-là, ce qui le fait rire parce que c'est son surnom, la bûche, sur la dissertation du bac de philo. Sa matière forte, comme il le présentait avant de découvrir sa note. 4. Ce matin-là, en découvrant le sujet « Qu'est-ce que le risque ?», Quentin s'est souvenu qu'un étudiant avait décroché un jour un 20 sur 20 en rendant une copie longue d'une seule phrase, le risque c'est ça. Sauf que voilà, c'est vrai, mais depuis le ministère de l'Éducation nationale a donné pour consigne aux profs de ne plus survaloriser la prise de risque. C'est faux, la vraie note de cet élève n'était pas 20 mais 18. Ou c'était une légende urbaine, puisque cette histoire célèbre est en fait tirée d'un film.
C'est.
B.
Non, et c'était l'audace. Qu'est-ce que l'audace ? C'était ça.
Le culot, moi j'avais
la bonne réponse.
Moi j'avais le culot, moi.
Vous misez tout. Vous faites
all-in. Je mise pas tout, mais bon, de toute façon, c'est pas comme si on jouait de l'argent.
All-in.
Donc, voilà. All-in de quoi ?
Mais ça, vous
j'ai enlevé mon gilet.
Je vous annoncerai à la fin de la saison qu'en fait, on a joué de l'argent. Chaque jour, vous jouiez chacun 100 euros. Oui, je vous
ai 100 euros.
L'un des deux sera ruiné à la fin de la saison, je l'annonce. Manon, la réponse ?
Oui, bah ça va pas être ça si vous êtes comme ça.
Moi j'ai mis la B, je crois.
Oui, vous aviez tous les deux raison. C'était les réponses B et C. C'était un petit piège.
Il faut dire quand c'est à choix multiple. On peut pas deviner. Sinon, ça sert à rien.
Prends le truc hyper au sérieux.
Une nouvelle règle.
La réponse, on l'écoute.
18 sur 20. J'ajouterais, monsieur Laugier, que votre devoir est génial. Tous les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment et plutôt moins que plus du risque. Mais vous, vous avez risqué. Monsieur Laugier a écrit « Le risque, c'est ça ».
Le risque, c'est ça. Au passage, vous aurez reconnu l'immense Henri Guibet. Le film, c'était Le Pion.
C'est bien notre génération, en plus.
Mais c'est ce que je vous reproche. Quentin, qui outre la philosophie, a aussi une passion pour la street food. Et justement, à propos de celle-ci, quelles rumeurs ont circulé à propos de ce fleuron de la gastronomie urbaine qu'est McDonald's ? Le petit cercle blanc en dessous des burgers est un anti-vomitif permettant de commander plus de burgers. Pendant les années 80, McDo aurait financé l'IRA afin d'éviter de se faire plastiquer. Ou McDonald's utilise des yeux de bœuf dans ses produits, ce qui lui permettrait de les étiqueter 100% bœuf.
Les trois.
A et C.
Les trois. Je dois m'incliner. C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Les trois, bon appétit bien sûr, et toutes ces rumeurs ont bien couru sur l'établissement préféré de Quentin, qui est cependant la preuve vivante que consommer du bœuf aux hormones de croissance n'influe en rien sur la taille. Autre légende urbaine. Et pour la prochaine question,
je fais 1m72.
Évoquons une légende urbaine.
On va pas le dire tous les jours.
Ça aussi c'est une légende urbaine,
c'est
Quentin. Évoquons une légende urbaine un peu gênante, pas celle qui prétend que sous ses grands airs féministes et woke, Manon serait en fait une nostalgique du national-socialisme.
Tu nous manques Hitler.
Mais une légende urbaine concernant Hitler lui-même. Vous savez, le célèbre aquarelliste autrichien a fait l'objet, après sa mort, si tant est qu'il soit mort, de bien des fantasmes. Parmi les légendes urbaines ayant circulé sur le fourreur, laquelle n'est pas une légende, mais un fait établi. Hitler était végétarien. Hitler était féministe.
Lol.
Ou Hitler était une femme.
Ah.
Il n'avait pas qu'un seul testicule aussi, je crois, je me souviens.
Oui, ça veut pas dire être une femme.
Je sais pas,
Quentin,
redites-moi les trois, là.
Oh. Bon, il était végétarien, il était féministe ou il était une femme.
Ah, oui, voilà. Bon. Gislain, notre réalisateur, c'est
Gislain
en mode.
A décidé que c'était fini. Ouais. Donc, bonne réponse, effectivement, de Manon Mariani. Hitler était végétarien et selon Cyril, ça explique tout. Quand tu passes ta vie à bouder l'andouillette et à bouffer du brocoli vapeur, normal que tu deviennes cinglé. L'info d'un Hitler vegan ne relève pas de la légende urbaine puisqu'elle est confirmée par Margot Volk, qui a été goûteuse d'Adolf Hitler. vert et qui, en bon parano, avait évidemment quelqu'un pour goûter à sa place les plats, le foreur avait une alimentation 100% végétarienne, des produits frais, des asperges, des petits pois, des poivrons, du riz et des salades, pas d'alcool, à la différence de son célèbre demi-frère.
On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée.
Lui, vous le connaissez, Jacques Villeret, quand même.
Ça va, oui.
Très bien, vous n'êtes pas si nul que ça. Notre tour d'horizon des légendes urbaines touche à sa fin, mais attention, la dernière question est susceptible de choquer nos plus jeunes auditeurs, que nous invitons à basculer rapidement sur la radio qui leur est dédiée, Mon Petit France Inter, où les attend la rediff de notre émission avec Patrick Sébastien.
Ça s'appelle Yé pas parce que c'est un cri de joie, sauf quand tu l'as mise à côté et que tu crois que t'es dedans.
J'invite donc les enfants à s'éloigner du poste pour cette ultime question. Parmi les légendes suivantes, laquelle n'est pas une légende urbaine?
N'est pas.
Au 19e, on a inventé le cercueil avec klaxon intégré parce que trop de gens étaient enterrés vivants. Il y a des bébés alligators dans les égouts de Paris jetés dans les toilettes par des touristes américains. Où le Père Noël existait avant la fameuse pub Coca-Cola.
B.
Oh là là.
B.
C. Mais C. C'était Saint-Nicolas.
C'est fou de se tromper autant, Manon. On a un peu de bonnes réponses avec Quentin.
C'est moi qui gagne, ça va.
C'était les réponses A et C. Oh. Un cercueil klaxon, ça a l'air encore plus con que la tasse connectée de Quentin. Et pourtant, avant l'invention des stéthoscopes, les médecins étaient pas au top du diagnostic létal et face aux vagues de choléra, ils avaient tendance à enterrer un peu trop vite pour endiguer la maladie. Face à la multiplication des cas d'enterrement vivant, on invente donc en 1829 le cercueil sécurisé. On met une cordelette autour des membres, elle-même reliée à une clochette en surface du cimetière afin d'alerter les vivants en cas de réveil inopiné.
Pourquoi il y a la musique de Fabrice?
Parce que c'est glauque.
C'est glauque.
Ah,
enfin,
okay. Wow.
Et les auditeurs de Petit France Inter apprécieront, ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël, il a au mieux popularisé sa tenue rouge, car effectivement le conte de Saint-Nicolas dont est issu le Père Noël date du tout début du 19e. C'est une victoire, hélas.
Ouais.
Moi aussi je trouve ça injuste.
Oh,
de Manon, je ne sais pas qui compte les points. Mais à mon avis,
4 personnes en régie, excusez-moi.
Hein. Zoom, un podcast, bien sûr.
Zoom sur l'ère de la post-réalité cet après-midi avec le sociologue Gérald Bronner qui sort à l'assaut du réel aux éditions PUF. Gérald, il faut parler du complotisme. Vous dites que le complotisme est une stratégie mentale visant à reprendre le contrôle face à un environnement perçu comme anxiogène. En termes simples pour nous, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les gens, selon les enquêtes qu'on a, ont l'impression de moins en moins maîtriser leur monde. D'un point de vue politique, par exemple, ils ont l'impression que la décision se prend toujours plus loin, dans des institutions qu'ils ne comprennent pas ou prétendent ne pas comprendre. D'un point de vue technologique, c'est évident. Je veux dire, notre environnement technologique est de plus en plus performant, mais si nous devions réparer notre téléphone ou notre ordinateur, on ne serait pas très bien. Alors qu'il y a encore quelques décennies, on pouvait intervenir d'une certaine façon dans cet environnement. Bref, cette impression de perdre la maîtrise sur son environnement, elle est corrélée dans les enquêtes que nous avons à la disposition à croire à des théories du complot. De sorte qu'une des fonctions de ces théories, c'est effectivement de se donner l'impression qu'on se réapproprie notre monde, tout simplement, parce que c'est une lecture simpliste, morale, du monde, avec des méchants, des gentils, avec des mécanismes de causalité qu'on arrive à saisir et contre lesquels on peut s'enrager éventuellement, même politiquement.
On est tous en train de devenir des autruches. On préfère enfouir la tête dans le sol plutôt que de voir la complexité du réel.
La disposition à expliquer n'importe quel phénomène avec un seul paramètre, ça s'appelle du monocausalisme, c'est encore un invariant de l'espèce humaine. Notre cerveau est très équipé pour penser les choses de façon monocausale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dépasser cela.
Ben comment ?
En cultivant son esprit critique, sa pensée méthodique, ça peut s'entraîner. Alors, il ne faut peut-être pas utiliser trop souvent ChatGPT, il faut essayer de raisonner par soi-même, mais on peut percevoir le caractère multifactoriel du monde. Mais il n'y a pas que les théories du complot qui font ça. La caractéristique des idéologies politiques, c'est aussi généralement de rapporter le réel à un seul paramètre qui peut être impliqué. C'est ça le problème dans la question qui nous intéresse. Et donc ça brouille les pistes parce que c'est un peu vrai, mais pas tout à fait.
On peut guérir du complotisme, désintoxiquer.
Oui, d'abord c'est pas une maladie, bien sûr. Mais oui, bien sûr, on peut reculer face à des croyances très radicales. On en a plein d'exemples, des repentis, je sais pas si le terme est très bon. Et d'ailleurs, moi-même, qui suis en face de vous, j'ai été extrêmement croyant, entre 15 et 25 ans, dont complotiste d'ailleurs, même pire que ça, j'étais millénariste, je croyais à la fin des temps. Je raconte tout ça dans un autre livre, ça s'appelait Exorcisme. Donc, bien sûr qu'on peut en sortir. Moi, je m'en suis sorti grâce à la sociologie, d'une certaine façon, c'est en raisonnant sur mes propres croyances, que je voulais travailler sur les croyances, que j'ai vu un peu plus de lumière rationnelle. Il faut bien savoir qu'on ne peut pas déradicaliser quelqu'un, à mon avis, on peut s'auto-déradicaliser. Donc, ce qu'on peut faire de mieux, c'est lui proposer des outils de pensée méthodique, d'esprit critique, pour que chacun puisse un peu reprendre le contrôle, et éloigné des formes d'aliénation mentale que sont tous ces récits complotistes ou autres.
Mais est-ce que ça devient impossible de prouver des faits réels maintenant que la science est devenue un objet des débats? On l'a vu pendant le Covid, évidemment. Des épidémiologistes se sont retrouvés sur des plateaux à débattre avec des personnes qui n'étaient absolument pas compétentes, sans compter évidemment les réseaux sociaux. Enfin là, on faisait face quand même à quelque chose d'une envergure assez exceptionnelle.
Bah, si vous voulez, l'administration de la preuve, elle existe toujours, elle est là quelque part. Ce qui est compliqué, c'est que maintenant, il y a un labyrinthe cognitif. Avant, il y avait des experts. Ce n'était pas forcément une situation préférable dans la mesure où seules certaines personnes étaient habilitées à prendre la parole dans l'espace public, ce qui n'était pas très, très démocratique.
Oui, mais là, on parle de science. Voilà.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sentons parfois qualifiés pour prendre la parole sur tous les sujets. Et il y a un effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est tout simplement le fait que quand on s'intéresse un tout petit peu à un sujet, on se croit plus compétent qu'on ne l'est. Et en l'occurrence, on n'est pas assez compétent pour se rendre compte de son incompétence. Or, l'impression d'être compétent nous donne envie de parler, et donc, comme on a la possibilité technologique de le faire, on parle beaucoup. Mais retenez tout de même que tout le monde ne parle pas avec la même force et avec la même fréquence. Il y a un phénomène qui est identifié, qui s'appelle le phénomène des super spreaders, qui fait que 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible.
Ah oui.
Et ce 1% sont justement des gens qui sont porteurs de croyances souvent très radicales sur le vaccin, sur le climat, etc.
Je sais, c'est une illusion, forcément, mais avec vous, j'ai l'impression de devenir tellement intelligent en tellement peu de temps, Gérald Brunner, que je vous pose la question, c'est quoi vous appelez la ductilisation du réel ?
La ductilisation du réel, rassurez-vous, c'est un terme que j'ai appris moi aussi en écrivant ce livre. Je suis allé le chercher et il existait, ça tombait bien. Ça veut dire simplement assouplir le réel. En fait, on amollit les concepts, ce qui donne le grand avantage de pouvoir lui faire dire ce que l'on a envie qu'il dise. En fait, grosso modo.
Pratique. À la fin du livre, vous allez plus loin, vous décrivez l'hypothèse de la simulation. Alors ça, c'est assez vertigineux. De quoi s'agit-il, l'hypothèse de la simulation ?
Bah oui, autant aller jusqu'au bout dans un livre qui s'appelle « À l'assaut du réel ». Bah oui, parce qu'il y a un philosophe du nord de l'Europe qui a imaginé qu'on pourrait vivre, en fait, croyant vivre dans un vrai monde, qu'on serait peut-être dans une simulation informatique.
Matrix, quoi.
Alors, ça peut sembler délirant, mais aujourd'hui, il y a des prix Nobel de physique qui travaillent sur cette hypothèse, parce qu'il y a un argument statistique. C'est-à-dire, son argument, je le résume très rapidement, c'est de dire qu'à un certain niveau de civilisation, on va pouvoir faire des simulations, réalité virtuelle, on n'en est pas encore là, qui seront en quelque sorte un peu indiscernables du réel, et où des individus virtuels vont avoir l'impression qu'ils vont vivre. Ce qui fait que, il dit, si on tire au hasard un être qui a l'impression d'être pensant dans l'urne du monde total, la probabilité de chance qu'il soit issu d'une simulation, elle est plus importante que du monde réel. Vous m'avez suivi ?
Je vous ai suivi. Bon, et c'est parce que je vous ai suivi que je trouve ça d'autant plus vertigineux. Vous écoutez France Inter, un des derniers sanctuaires encore préservés, on l'espère, des dérives de la post-réalité. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Le métaverse, ces fameux mondes virtuels auxquels on a accès avec un casque de réalité augmentée. Le but est de vivre des expériences immersives le plus souvent à travers des jeux. On se crée un avatar considéré comme notre nouvelle identité numérique. Plusieurs entreprises ont créé leur propre métaverse, dont Meta de Mark Zuckerberg. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a changé de nom en 2021 pour cet univers virtuel censé devenir le futur d'Internet. Le métaverse n'est donc pas relié directement à Meta comme beaucoup le pensent, c'est un mot-valise qui définit plein de mondes virtuels différents. Et parmi eux, il y a celui créé en 2009 par Zuckerberg qui s'appelle Horizon World. Lancé en grande pompe, la plateforme de Meta devait réunir des millions d'utilisateurs. Mais 3 mois après son lancement, à peine 300 000 avatars s'y sont connectés et la plupart ne sont jamais revenus. En cause, le design d'un autre temps, on a l'impression de voir une redite des Sims en moins bien. Les avatars n'ont par exemple eu pas de jambes pendant plusieurs mois, ce qui a valu de nombreuses moqueries à Meta, évidemment, sur les réseaux. Même les employés de l'entreprise ont déserté leur propre monde virtuel. Des femmes se sont aussi plaintes de s'être fait agresser sexuellement dans certains jeux où il n'y avait manifestement pas assez de modération. Ça fait beaucoup et les conséquences sont désastreuses pour Meta. En 4 ans, le métaverse de Meta a coûté 50 milliards de dollars à l'entreprise. Un investissement qui leur a bien coûté puisque en 2022, l'action de Meta s'effondre de 70%. Les investisseurs ont donc évidemment déserté la plateforme.
2022, depuis ça en est où ?
Nulle part. Zuckerberg a bien compris que le métaverse n'était pas le futur d'Internet et qu'il s'était fait rattraper très rapidement par l'intelligence artificielle, la fameuse. C'est d'ailleurs dans ce domaine que Meta investit massivement aujourd'hui. L'entreprise a même créé un département spécial, le Meta Super Intelligence Labs, dans lequel elle a investi plus de 14 milliards de dollars. Elle vient d'ailleurs de sortir sa première plateforme dédiée à l'IA, on en parlait tout à l'heure, Vibes, une sorte de version revisitée publicité de TikTok où il n'y a que des vidéos générées par intelligence artificielle. OpenAI a fait exactement la même chose avec Sora. Meta espère donc rattraper son retard dans la course à l'intelligence artificielle et faire oublier une bonne fois pour toutes son fail avec le métaverse.
Merci Manon.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
C'est la première chose que je vois chaque matin dépasser les ordi quand j'entre dans l'open space de Zoom Zoom Zen, la touffe de Pierre Courade. Pierre, qui est au croisement des chemins, ni aussi vieux que Cyril, ni aussi jeune que Quentin, il est physiquement à un point de bascule dont le résultat est visuellement extrêmement étrange puisqu'il a les biceps vigoureux d'un jeune culturiste mais la densité capillaire vaporeuse d'Alain Souchon. Pierre, c'est donc avec cette coiffure qui à elle seule mérite qu'on vous suive en vidéo, que vous nous résumez chaque après-midi tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et aujourd'hui on a parlé de la poste réalité avec notre invité, le sociologue Gérald Bronner, qui explique le concept dans son dernier livre. La post-réalité, c'est au-delà de la post-vérité, largement maniée par les populistes. D'après notre invité, la réalité est devenue une opinion comme une autre. Chacun voit sa propre réalité selon ses désirs. La réalité d'une personne vaut donc la réalité d'une autre, et peu importe si les faits et la science disent le contraire. C'est dans ce contexte que le populisme puise ses ressorts. Pour Gérald Bronner, c'est d'ailleurs pour se protéger d'une réalité qui ne nous convient pas qu'on tente de s'approprier une réalité alternative, plus en phase avec nos désirs. Et là encore, peu importe si elle ne résiste pas à l'épreuve des faits. La post-réalité s'organise technologiquement sur les réseaux sociaux, poussée par les algorithmes et aidée par l'IA. L'idéologie s'en retrouve confortée dans cette cinquième dimension. Des camps s'opposent et rien ne semble mettre une borne à cette contre-vérité, ce détournement du réel. Finalement, chacun reste campé sur ses réalités. C'est le règne de l'individualisme, du cloisonnement, la fin d'une certaine vie en société.
Merci beaucoup Pierre. Vous maintenez que la gastronomie italienne n'existe pas ?
Absolument.
Très bien. À l'assaut du réel, c'est Gérald Bronner, notre invité, qui le signe et c'est disponible chez PUF. Qu'a pensé François Rollin de nos émissions de la semaine ? C'est la question qui nous met une boule au ventre chaque vendredi. C'est donc fébrile que nous accueillons notre inspecteur des travaux finis. Bonjour François Rollin.
Oh là là Mathieu, mon pauvre lapin. Votre émission est en train de partir en sucette, ça me fait tellement de la peine. En plus, je vois bien que vous, Mathieu, vous essayez un petit peu de rectifier le tir, mais votre rédacteur en chef, le pervers Cyril Lacarrière, vous pousse dans la mauvaise direction et vous, vous courbez les chines. Oh, c'est tellement triste. Le sentiment dominant, je ne vous le cache pas, c'est l'affliction. Voyons cette semaine. Lundi, la République des juges avec Benjamin Morel, constitutionnaliste. Bon, j'aime bien le prénom Benjamin, j'aime bien le patronyme Morel, ça me fait penser à l'indispensable François Morel, mon petit pote, mon petit poète. Mais constitutionnaliste, c'est un métier, ça. Et boulanger, c'est un métier. Gynécologue, c'est un métier. Mais constitutionnaliste, c'est pas un vice, plutôt. C'est pas un truc de pervers. Bref. Mardi, Epstein. C'est-à-dire, n'ayons pas peur des mots, Jeffrey Epstein. Je suis pas journaliste, mais c'était pas un mec hyper chelou, celui-là, un bonhomme pas clean. Dans un monde qui va mal, on avait vraiment besoin de réveiller le souvenir de ce mec-là. Bref, mercredi, Genzen 212, un coup de zoom sur ce mouvement protestataire d'ampleur mondiale, mais focalisé ce jour-là sur le Maroc. Pourquoi le Maroc ? Parce que, me répond-on, notre invité est journaliste à Jeune Afrique. Mouais. Ça ne serait pas plutôt pour financer les pharaoniques travaux de rénovation du sublime Riyad que Cyril Lacarrière a acquis au cœur de la paradisiaque cité portuaire des Zawira ? Il faut arrêter de me prendre pour un jambon. Bref. Je dis virginité avec Manon Luga, coordinatrice d'intimité. Et j'arrive même pas à le lire. Non, mais je n'invente rien, c'est vous qui l'avez dit. Coordinatrice d'intimité. Et vous alors, vous êtes double opérateur de surefficacité promotionnelle ? Et moi, je suis néo-directrice de simulacre de conformité ? Écoutez, la prise de tête, d'accord, mais à un moment, il faut se calmer. Bref, vendredi, aujourd'hui, la post-réalité, avec le sociologue Gérald Bronner. Bon, j'ai rien contre le bonhomme, je pense qu'il paye honnêtement ses impôts, mais le pitch de son bouquin, nous nous organisons à la fois technologiquement et idéologiquement pour ne plus entendre le non que le réel impose parfois à nos désirs, autrement dit, c'est le refus de se cogner au réel. qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que c'est que ces salades? Attendez, on vous a demandé de faire jeune, c'est ça? On vous a demandé de confirmer votre ancrage à gauche? Si c'est ça, dites tout simplement, on est jeune, on est de gauche. Mais ne nous embrouillez pas la tête avec des théories fumeuses. Bref. Et revoilà le pimpant et fringant Mathieu Noël qui se traîne par terre en pleurnichant. Mais on aurait dû faire quoi?
Ben oui.
Je vais vous le dire, comme dit Nicolas Sarkozy, je vais vous le dire. Répondre aux préoccupations des Français. Comment? En 5 points. 1. Dénoncer l'augmentation du prix de la bidoche, notamment le veau et l'agneau de présalé. 2. Prendre des nouvelles de Cadmérade, si peu présent sur nos antennes. 3. Exiger la publication du bulletin de santé de Jordan Bardella, en 5 exemplaires au moins. 4. Réaffirmer sans embâge que les cuisses de grenouilles importées de Pologne, ça ne vaut pas tripette par rapport aux grenouilles de France. 5. Reconnaître, avec la complicité d'Éric Zemmour, que si le footballeur Dayo Upamecano joue super bien, ça ne le dispense pas de faire un effort pour s'appeler Pierre Chevalier ou Jacques Martineau. Bref, je sais ce que vous allez dire, bref.
Effectivement, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci François Rollin, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom pour un nouveau bilan hebdomadaire. Merci beaucoup Gérald Bronner de nous avoir mis en garde contre ce monde qui est hélas déjà le nôtre, celui de la post-réalité. Je rappelle votre livre, À l'assaut du réel, c'est dispo chez Puf. Évidemment, même Cyril Lacarrière a envie de le lire.
Oui, une dernière question, c'est vendeur cette couverture, parce qu'on y voit, c'est un tableau de Goya, ça s'appelle Saturne dévorant un de ses fils. Ça fait pas peur aux gens, ça?
Oui, c'est un peu dégoûtant, mais c'est un bon hameçon attentionnel dans une librairie. C'est pour ça que j'ai choisi ça.
Ouais. Marketing avant tout.
Marketing avant tout. Soit il faut mettre un chat, j'ai vu, pour faire vendre des livres. Absolument. Un petit chat mignon. Absolument. Oui, ça fait vendre des livres. Zoom, zoom, zen.